Bienvenue, c'est Par ici la musique pour évoquer la percussion, le vibraphone et les marimbas avec Baptiste Grand, le troisième de l'Oval Trio. Je dis le troisième puisque l'année passée, nous avions déjà reçu Michel Zbinden et Mathieu Schneider. Baptiste Grand participe à de nombreux projets musicaux, que ce soit dans la musique classique ou dans le jazz. Nous allons justement vous apporter toutes ces couleurs dans l'émission d'aujourd'hui que nous partageons donc en compagnie de Baptiste Grand.
Par ici la musique.
On entend ici Firenze, l'une des compositions de Baptiste Grand. Baptiste qui est ici à la percussion, Mathieu Schneider à la flûte et puis également Michel Zbinden. C'est un extrait de l'album d'Oval Trio. Oval Trio qui avait été présenté il y a quelques années pour la première fois à Courgenay, le village de l'enfance de Baptiste Grand.
Oui, effectivement, Courgenay, c'est le village où j'ai grandi depuis l'âge de 10 ans, donc c'est aussi là finalement que j'ai commencé à être percussionniste, parce que j'ai, dans un premier temps, j'ai appris la batterie dans la fanfare du village, et pour ensuite me tourner plus vers les percussions au sens large. Donc effectivement, Courgenay, c'est vraiment le début d'une aventure musicale.
Pourquoi un jeune musicien se lance dans la percussion? Qu'est-ce qui t'attirait vers la percussion?
C'est une très bonne question, parce que finalement, moi, j'ai commencé la musique avec de l'accordéon et de l'orgue électronique, comme c'était la mode dans les années 80. Et puis tout à coup, d'un coup, en 90, quand je suis arrivé justement à Courgenay, j'ai commencé la batterie. Je pense que tout à coup, il y a eu une attraction pour cet instrument un peu subite, parce que j'ai presque arrêté d'un seul coup ce que je faisais d'autre. Et vraiment, je suis parti dans la batterie à ce moment-là. Peut-être c'était quelque chose de complètement instinctif. J'arrive pas à donner une raison à ça. Rationnel, disons.
Qu'est-ce qu'il faut comme aptitude, j'allais dire, pour être un bon percussionniste? Alors évidemment, il faut avoir l'oreille musicale, mais est-ce qu'il faut être un petit peu mathématique? Est-ce qu'il faut compter? Qu'est-ce qui marque finalement la particularité d'un batteur et d'un percussionniste?
C'est une très très grande question, c'est-à-dire il faut avoir l'oreille. Et puis c'est pas peu dire, justement quand on est batteur ou percussionniste, parce que souvent on entend, alors c'est complètement schématique, mais on entend parler du batteur qui joue trop fort. C'est quelque chose de très très juste, c'est-à-dire que de cultiver justement cette conscience du son, et surtout du son qu'on dégage avec l'instrument qu'on a, parce que une batterie ou une percussion c'est potentiellement très puissant, c'est vrai que les batteurs et les percussionnistes qui sont très appréciés sont justement ceux qui savent se mettre à l'écoute du son qu'ils produisent et du coup du son des autres, et vraiment jouer dans cette nuance-là et justement savoir faire des nuances, ça c'est très important. L'autre aspect aussi, justement, c'est cet aspect rythmique. C'est vrai que Alors savoir compter, c'est une des manières de s'en sortir, mais c'est vrai qu'avec la pratique, c'est surtout arriver justement à sentir ces rythmes, à sentir avoir vraiment cette notion de la pulsation qui est très très forte. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de fascinant, parce que là, qu'on choisisse la batterie ou la percussion ou finalement n'importe quel autre instrument de musique, la pulsation, c'est quelque chose qui est toujours présent.
Quand on est percussionniste ou batteur dans une fanfare ou dans un orchestre classique, mais ça, on y reviendra tout à l'heure, est-ce qu'on est quand même dans un domaine un petit peu à part, parce que finalement, on ne donne pas le même son, on n'a pas le même rôle dans un orchestre qu'un violon ou qu'un cuivre?
Alors c'est vrai qu'on n'a pas le même rôle, puis déjà quand on commence la musique, puis quand on est jeune, des fois c'est assez impressionnant, parce que le batteur, il est toujours solo. Que ce soit dans une fanfare ou un orchestre, il est tout seul à jouer sa voix. Donc c'est vrai que, alors ce sera pas une voix mélodique pour le cas d'un batteur, mais par contre c'est vrai qu'en guillemets, c'est des fois sur lui qui tient tout l'orchestre. Et voilà, si on peut se retrouver à 14 ans à être le batteur de la fanfare, ou en tout cas sur un morceau ou l'autre, et du coup c'est sur soi que repose effectivement le fait que l'orchestre va groover justement ou pas. Donc c'est finalement une grosse responsabilité tout à coup qui vient. Mais justement, c'est fascinant, parce que chaque fois qu'on joue quelque chose en percussion, on sait que c'est soi. Parce que voilà, on est toujours seul dans sa voix. Mmh. Et alors, en même temps, une prise de risque, puis en même temps, un super challenge, quoi.
Est-ce qu'il faut être solitaire parfois aussi pour être batteur?
Oui, alors je pense, et peut-être c'est justement peut-être le danger d'être trop solitaire. Parce que comme on est seul à jouer son instrument, c'est toujours justement de rester conscient qu'on joue avec d'autres personnes, et c'est là que la musique prend vraiment son intérêt, c'est quand on partage ses rythmes avec d'autres personnes et avec justement d'autres instruments, quoi.
Je le disais en début d'émission, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est un petit peu à la naissance du projet Oval Trio, avec deux percussionnistes et un flûtiste. Oval Trio, c'était quand même quelque chose d'important qui était en train de naître. Comment tu peux en parler dans ton parcours de musicien? À quoi ça correspond, la naissance d'Oval Trio?
Oval Trio, alors c'est génial, c'est vraiment justement, c'est le symbole même de ce genre de rencontre en fait. C'est parti d'un duo justement, c'est quelque chose qui a grossi, parce que quand j'ai commencé les études à la Chaux-de-Fonds Conservatoire, j'ai rencontré justement Michel Zbinden, avec lequel on a commencé à jouer en duo, des duos de clavier, vibraphone, marimba. Et puis à un moment donné, justement, en sentant qu'on s'entendait très bien, on a eu cette envie de partir sur un projet de disque. Et dans le cadre de ce projet, on s'est dit, tiens, on va prendre un invité pour quelques morceaux en tout cas, et voir. Et à ce moment-là, on a invité Mathieu Schneider pour venir jouer de la flûte sur quelques morceaux. Et en fait, après une répète, on s'est rendu compte qu'il avait envie de jouer tous les morceaux avec nous et pas seulement quelques-uns. Donc ça, c'est vraiment la démonstration même de ce phénomène de rencontre où effectivement la musique, elle est ouverte à tous. Et d'un duo peut tout à coup naître un trio parce que les gens ont quelque chose à partager ensemble. Et justement, ça, je pense, c'est vraiment la chose très forte. Et notamment dans le cas d'Oval Trio, c'est cette volonté de partager et d'avoir des choses en commun à raconter. Et c'est pour ça que c'est effectivement, comme tu le dis, c'est un une aventure qui dure depuis longtemps, parce que Oval Trio, ben, on a vraiment des choses à dire. Alors, on n'est pas toujours ensemble, et des fois Oval Trio s'arrête pendant quelques mois, et on a chacun aussi d'autres projets, mais c'est un fil rouge qui est toujours là, et quand on se retrouve, à chaque fois, il y a cette fusion qui se refait tout de suite, parce que on partage vraiment le même terreau, quoi.
Par ici la musique.
Baptiste Grand vient d'entendre Oval Trio avec une composition d'Astor Piazzolla. Alors justement, Oval Trio, on est un petit peu à mi-chemin entre le jazz et la musique classique. Et finalement, ce sont les deux courants musicaux où tu évolues volontiers dans la percussion.
Effectivement, puis je ne pouvais pas choisir et je n'arrive toujours pas à choisir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'autant au niveau de mes études que de mes activités actuellement, je suis toujours... dans ces deux mondes, en fait, j'adore l'aspect improvisé, donc plutôt jazz, et autant au clavier qu'au niveau de la batterie. Et en même temps, j'aime beaucoup faire des projets classiques comme percussionniste, comme timbalier, donc avec orchestre, dans des opéras ou autres, parce que justement, c'est vraiment deux mondes qui, chez moi, se réunissent vraiment. Et je trouve que chaque musique a quelque chose de très intéressant à développer.
Est-ce qu'on est un autre musicien lorsque l'on est dans un projet classique ou lorsque l'on est dans un projet jazz ?
Alors, je pense qu'on fait autre chose, mais plus j'évolue et plus je me sens dans le même état. en fait. C'est-à-dire, bon, l'un des deux improvise et l'autre non, peut-être c'est ça la grande différence. Mais plus je vois la partition, par exemple, si on prend le cas justement de la musique plutôt écrite, plus je vois la partition comme une possibilité de cette musique, et plus je la prends comme elle est, sans forcément avec ce phénomène de se dire, tiens, la musique qui est écrite, c'est la seule solution, ça doit vraiment être comme ça. J'avais des appréhensions un petit peu plus peut-être rigides par rapport à ça au début, mais maintenant, en fait, tout est en train de s'ouvrir, et même que ce soit une partition écrite ou une partition improvisée, ben, de plus en plus, ça devient effectivement le même mot de la musique, et l'important, c'est finalement qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on dégage avec ça.
Il y a deux courants musicaux dans lesquels Baptiste Grand évolue volontiers. Il y a d'un côté le jazz, de l'autre la musique classique. Pour la musique classique, il a joué avec le trio à cordes Carpe Diez et collabore très régulièrement avec l'orchestre de l'avant-scène opéra dirigé par Yves Sen à Neuchâtel. Mais il faut l'avouer, il est assez rare que des compositeurs créent des morceaux pour des percussionnistes, vibraphones ou marimba.
Alors effectivement, bah surtout historiquement, finalement, si on regarde les périodes d'histoire de la musique, il y a eu toujours un peu un instrument roi à certaines périodes, et justement, puis des tendances musicales qui fait qu'on est dans telle ou telle atmosphère. Et en fait, bah, je dirais que gentiment, l'instrument roi, par exemple, du XXe siècle, même au niveau de la musique classique ou contemporaine, bah, c'est gentiment la percussion. Bah, c'est vrai que c'est un instrument qui s'est énormément développé au XXe siècle, et avant, il était des fois... Bah, justement, déjà, si on prend le 19e siècle dans les grandes symphonies ou les grandes pièces symphoniques, on a déjà de plus en plus de percussions. On est vite à 4-5 percussionnistes. Et si on recule dans le temps, bah, effectivement, c'était moins présent. Mais il y a vraiment un développement de la percussion qui se fait. Alors, c'est vrai que globalement, si le répertoire qu'on entend au niveau de la musique classique, c'est plutôt 17e, 18e. 19e siècle, et ben là on a un petit peu moins de percussions globalement. Donc je dirais que plus on avance dans le temps et plus c'est susceptible d'y en avoir. En fait.
Thank you. Par ici la musique.
Parlons du projet aussi avec Mathieu Schneider. Alors, c'est un projet finalement assez récent. La volonté avec Mathieu Schneider, c'est de poursuivre dans la direction de ce que vous appelez entre parenthèses l'Oval Duo.
Alors, exactement, oui, ce projet en duo avec Mathieu Schneider, c'est parti vraiment d'une proposition en fait, du conservatoire neuchâtelois, où je travaille, qui a mis sur pied une saison de concerts des professeurs. Et donc, du coup, il fallait que le projet soit uniquement interprété par des professeurs du conservatoire. Donc, c'est pour ça qu'on a joué en duo. L'aventure en duo, ça change du trio, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus souple, en fait. Vraiment une possibilité d'interaction et de réaction instantanée, parce que voilà, il suffit qu'il y en ait un des deux qui partent dans une direction et l'autre à qui le suivre. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet aussi de voir un peu un autre répertoire que peut-être des fois on reprendra avec Oval Trio par la suite. Et c'est vrai que cette formule en duo, ça permet d'explorer d'autres choses. À titre personnel, pour moi, c'est aussi un rôle beaucoup plus exposé dans le sens où y a ce phénomène d'assurer tout le fond, en fait, toute la pompe, si on veut, avec Mathieu qui joue les lignes mélodiques par-dessus. Donc je fais vraiment la section rythmique à moi tout seul. Donc c'est très, très intéressant de faire ça.
Est-ce que dans la vie, tout est percussion ?
C'est une bonne question. Tout, quelque part, tout est vibration. Tout est énergie, tout est vibration. Donc, la percussion, c'est la manière artistique de parler de ça, en fait. Finalement, la percussion, là aussi, par rapport à l'histoire de la musique, c'est presque l'instrument le plus ancien. Enfin, il y a le chant en premier, puis la deuxième chose... c'est de frapper finalement. Et c'est vrai que dans les musiques traditionnelles qu'on peut entendre, chant-percussion, c'est souvent la première forme d'expression. Puis après, gentiment, on s'est dit, plutôt que de chanter, on peut peut-être souffler dans quelque chose pour en faire un autre son, etc. Donc oui, la percussion a quelque chose de très, très, très originel, en fait, comme mode d'expression.
Est-ce qu'il peut y avoir parfois le même rapport que peut avoir un violoniste avec son instrument pour un percussionniste avec un marimba ou tout autre instrument de percussion?
Je pense qu'il est un peu moins fort parce que on est concrètement déjà très souvent amené à jouer sur des instruments qui ne sont pas forcément le nôtre. Et justement, vu la taille des instruments, c'est un peu comme le pianiste qui joue sur un piano à queue. C'est vrai qu'en général, il va jouer avec le piano qu'il y a sur place. Il n'y a que dans de rares exceptions qu'il peut amener leur propre piano pour faire des concerts. Le percussionniste, ça ressemble aussi un petit peu à ça. Alors, des fois, on amène ses instruments, mais pas forcément. Donc, c'est vrai que le rapport, il est un petit peu plus faible. Moi, dans mon cas, c'est vrai que par exemple, mon vibraphone, en général, c'est moi qui l'amène. Donc là, très souvent, je joue avec le mien. Mais c'est vrai que si je dois jouer sur un autre, c'est pas... En tout cas, c'est pas une catastrophe. Et puis, je dirais que de toute façon, en tout cas, la percussion, tout ce qui est percussion à baguette, on a de toute façon un rapport un peu distant avec l'instrument. On le touche pas directement avec les doigts, justement, contrairement à un violoniste. Donc là, ça fait aussi que si c'est pas le nôtre, on le connaît finalement un peu moins bien sur le plan du toucher. Et c'est vrai qu'un violoniste, si on lui change son instrument, il va tout de suite reconnaître que c'est pas ce toucher-là. Peut-être, dans le cas de la percussion, si on prend un djembé, alors, moi, j'en joue pas suffisamment pour savoir, mais peut-être qu'un joueur de djembé, il aura toujours son djembé à lui parce qu'il le reconnaît vraiment à la frappe et à la sensation qu'il a dans les mains quand il le touche, en plus du son, évidemment.
Des pièces pour marimba ou pour vibraphone, il n'en existe pas beaucoup écrites et éditées.
Alors, par rapport aux autres instruments, c'est sûr qu'il en existe encore peu. C'est vrai que c'est un instrument pour la musique occidentale qui sont très récents. Ils ont un siècle d'existence à peu près. Ça fait un siècle que des gens prennent la plume pour écrire pour ces instruments-là. Donc, le répertoire est encore très, très mince. Et c'est pour ça que des fois, on va chercher dans les adaptations d'autres instruments. Et puis, justement, c'est vrai qu'on est incité du coup à écrire beaucoup soi-même pour avoir des choses à dire, justement. Parce que c'est vrai que c'est ça le propre des instruments, c'est d'avoir quelque chose à raconter avec eux.
1111 mètres, Oval Trio et Baptiste Grand à la batterie. De quoi rêve un percussionniste?
De quoi rêve un percussionniste? Alors, ben, je crois qu'il rêve de tout ce qu'on dit maintenant, c'est-à-dire de ce phénomène justement de faire du concert. Je pense que le rêve d'un percussionniste, j'ose imaginer, c'est le même qu'un musicien au sens général, en fait. C'est de donner de la musique pour un public, le donner avec d'autres musiciens. Et je crois justement, suivant le rôle qu'on a, parce que des fois le percussionniste, il peut être dans un rôle de donner des couleurs, par exemple. Bah, si on reprend l'exemple du percussionniste plus pour un orchestre ou dans un cadre plutôt musique contemporaine ou écrite, des fois il y a plus ce côté de colorer, par exemple. Le batteur aussi, des fois, suivant dans quelque chose, par exemple, s'il joue une balade, jazz ou des choses comme ça, il a des fois plus un rôle de colorisateur, je sais pas si on dit ça,
ouais,
de donner de la couleur aux choses. Et ça, je crois que c'est un peu un rêve de voir qu'on a devant soi une image en noir et blanc et puis que nous, on est là pour envoyer des jets de peinture et vraiment faire ressortir le tableau et l'image finale.
Qu'est-ce qu'il te faut pour t'inspirer? Qu'est-ce qui t'inspire, toi?
Alors, bon, il y a plein de choses. Il y a un peu les voyages, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette dimension visuelle qu'on veut redonner. Donc, par exemple, dans les compositions que j'ai faites, il y a vraiment des endroits qui m'ont inspiré des musiques.
Ah oui, lesquels?
Par exemple, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Monument. Et en fait, c'est dédié à Monument Valley, qui est aux États-Unis. C'est la fameuse vallée où il y a ces grosses pierres qu'on voit souvent dans les Lucky Luke. Justement, un paysage assez désertique, mais avec ces grosses pierres comme ça qui restent, et un sentiment de monumental, en fait, vraiment de d'immobilité et de calme absolu. Et c'est vrai que c'est une pièce qui est très horizontale comme ça. Alors, c'est des fois difficile de relationner les choses directement. Ah oui, c'est cet élément-là qui fait que. Mais typiquement, ça, je l'ai composé, cette pièce, avec cette image en tête, en fait. Et après, ça devient ce que ça devient. Donc, ça peut partir dans une ambiance des fois différente, mais en tout cas, le point de départ de la composition, il était avec cette image-là. Il y a une autre pièce, par exemple, Oval Funk. Il a été rebaptisé, mais à la base, je l'avais dédié à un chat, en fait. Et c'est une pièce qui est très sautillante, qui est très rapide, qui est très agile, comme ça. Et justement, à la base, c'était pour un chat, parce que c'était un petit chat qui avait 3 semaines, et du coup, qui était justement très agile, sautait un petit peu partout. Et du coup, voilà, c'est par lui qu'est venue l'idée de cette pièce, par exemple. Mm-hmm. Et encore une fois, c'est vrai que c'était vraiment une base, et ensuite, ben voilà, au fur et à mesure de la composition, finalement, la composition nourrit aussi elle-même la composition. Donc après, des fois, justement, on peut partir vraiment dans des choses très, 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 très différentes.
Bon improvisateur de la musique et aussi un bon improvisateur de la vie.
Oui, je pense que ça participe des mêmes choses, ça va de pair, ouais, certainement, parce que c'est finalement la manière dont on voit la musique, c'est aussi justement la manière dont on peut voir peut-être la vie. Donc si on sait réagir sur le moment en musique, je pense qu'on sait aussi pas mal réagir aux choses de la vie. Et oui, je pense que les deux sont vraiment liés. Et peut-être justement, si on a des périodes de vie d'une certaine manière, bah, la musique qu'on va faire dans ces moments-là, elle sera intimement liée à ce qu'on vit. Et donc, voilà, encore une fois, c'est vrai qu'à une période ou à une autre période, on va jouer des choses complètement différentes parce qu'on n'est pas dans le même état. Et autant la musique, des fois, peut faire du bien à la vie, et le contraire, ou effectivement, une période difficile, ça peut être quelque chose où on va peut-être sortir musicalement des choses qui sont très fortes et qu'on pourrait peut-être pas justement, par exemple, composer ou jouer dans d'autres moments parce qu'on n'a pas cette disposition-là.
Oval Funk pour terminer, une composition de Baptiste Grand interprétée ici par Oval Trio, Michel Zbinden et Baptiste Grand pour les percussions et Mathieu Schneider pour la flûte. C'est donc ainsi que se termine cette émission. Vous la retrouvez en tout temps sur le blog de Par ici la musique avec quelques images et en plus une ou deux vidéos d'un concert que Baptiste Grand a donné avec Mathieu Schneider au mois de janvier à la salle Farel au conservatoire de La Chaux-de-Fonds. Au revoir et à très bientôt.